Vous êtes sur France Bleu Saint-Etienne. Il est tout pile 8h. 8h, toute l'info, c'est avec vous, Sébastien Cabrita dos Santos. Avant Givor, on a 15 minutes de trafic bien à l'arrêt sur la 47 avant le pont de Givor. C'est ralenti entre la Ricamari et Saint-Jean-Bonnefond sur la Nationale 88, ainsi qu'entre Roche-la-Molière et Villars. Vous comptez 5 et 9 minutes respectivement pour vos temps de trajet. La météo, c'est du soleil, journée très agréable avec un joli soleil de printemps et des nuages d'altitude. 3 degrés à Saint-Etienne ce matin, 17 degrés cet après-midi. Une jeune femme soupçonnée d'avoir abandonné son nouveau-né dans un local poubelle à Saint-Étienne.
Interpellée puis hospitalisée avant d'être entendue par les enquêteurs en garde à vue. C'était dans la nuit de samedi à hier. Emeline Rochedi, ce sont les habitants de l'immeuble qui ont donné l'alerte.
Oui, les voisins qui ont entendu des cris de bébé, qui se sont demandé ce qu'ils entendaient. Ils sont sortis de chez eux. Et là, ils ont vu des traces de sang. Du sang qui semblait avoir coulé depuis pas longtemps dans les escaliers. Là, ils ont du coup prévenu les secours. Et quand les policiers arrivent, ils trouvent une jeune femme de 20 ans, la mère du bébé. Et l'enfant qu'elle est allée récupérer elle-même dans ce local, manifestement né depuis quelques heures. Son cordon ombilical en témoigne. Le SAMU l'a prise en charge. Il était en hypothermie, mais en bonne santé. Vraisemblablement, la mère aurait accouché seule, sans doute après un déni de grossesse. Elle a, elle aussi, été hospitalisée. Elle est en garde à vue. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide, parce que selon la police, si elle était intervenue ne serait-ce que quelques heures plus tard, le bébé n'aurait peut-être pas survécu.
Emeline Rochedi, avancée de l'enquête sur votre application ici. Ils sont déjà bien en place. Des parents d'élèves se réunissent en ce moment même devant les grilles de l'école La Tardive à Firminy. Ils réclament la mise en place de grillages hauts et dénoncent la présence plus ou moins intrusive de dealers autour de l'établissement scolaire. La cour de récréation serait même parfois utilisée comme cachette. Les policiers appelés la semaine dernière ont été accueillis par des jets de cailloux et de projectiles.
Il n'y aurait pas eu de perquisition la semaine dernière si Gaël Perdriot avait présenté au juge la preuve de son innocence.
Ouais, c'est l'élu d'opposition, Lionel Boucher, comme à son habitude encore offensif, qu'il dit ce matin sur France Bleu Saint-Étienne-Loire à l'encontre du maire de Saint-Étienne. Et avant ce nouveau conseil municipal qui s'annonce encore mouvementé, l'affaire du chantage à la vidéo intime une nouvelle fois au centre des débats, le dossier Zara également discuté après l'annonce du déménagement de l'enseigne d'ici 6 semaines du centre-ville au centre commercial Style. L'interview complète est déjà réécoutée sur l'application ici. La France resserre les rangs après l'attentat qui a fait 137 morts et 182 blessés ce week-end à Moscou, selon le dernier bilan communiqué par les autorités russes. Le Premier ministre Gabriel Attal rehausse le niveau Vigipirate à urgence attentat. Plusieurs milliers de militaires supplémentaires vont être déployés chez nous en France, avec des contrôles notamment mis en place à l'entrée des bâtiments publics et des lieux de culte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce par ailleurs de son côté que plusieurs opérations Place Net XXL sont ce matin lancées dans plusieurs grandes villes de France.
Ça ne lâche rien sur les hauteurs de Saint-Austien.
Ouais, ce n'est pas trop tard. Message porté hier par les membres de la lutte des SUC, à nouveau mobilisés contre le projet de contournement de la Nationale 88 en Haute-Loire. Ils ont décidé hier de remettre de la vie, c'est ce qu'ils disent, en replantant des arbres et en lâchant leurs brebis, non loin de là où doivent être construits les 10 km de route suffisants, selon eux, pour ravager tout un écosystème. Aurélie Jacquand.
On est sur une pente assez raide et là où on se trouve, si le contournement se fait, eh bien il y aura un viaduc au-dessus de nos têtes. Fabien refuse, alors il a sorti l'appel.
Ici, c'était une forêt, donc on est sur un versant nord, donc c'était une haie très sapinière. C'est l'habitat classique un peu de la région de la Haute-Loire, un peu en altitude. Et voilà, bah, tous les arbres ont été rasés.
J'aime bien la forêt.
Voilà son fils de 5 ans avec qui il replante des arbres fruitiers.
Il y a le symbole quand même de rendre cette plantation utile. Et installer une route dans ce secteur, ça n'a pas trop de sens alors qu'on a une route juste à côté qui est fonctionnelle.
Pour lutter contre cette route, ils utilisent un autre symbole, les animaux. En l'occurrence, 31 brebis que Sylvain, le berger, fait pâturer sur le futur tracé. Et toute la semaine, il a tenu des réunions.
Moi, ce qu'on pense avec ce troupeau, c'est d'ouvrir le débat, d'ouvrir le dialogue. Les animaux sont là pour apaiser. On souhaite que les habitants soient informés.
Vous pensez qu'ils ne le sont pas assez?
Je pense qu'ils ne sont pas assez. Là, par exemple, il y a 120 hectares de zone agricole qui devraient être engloutis sous du bitume. On va couper toutes les sources de tout un bassin versant du Roudès. On détruit les éponges que sont les zones humides. On coupe les arbres qui sont là pour freiner l'écoulement de l'eau. Si cette route se fait, dans 10 ans, vous verrez le paysage ici complètement modifié.
Pour le moment, grâce aux brebis, des murets en pierre et 60 km de haies ont été préservés.
Et environ 200 400 arbres ont été plantés. Aurélie Jacquan, les militants de la lutte des SUC espèrent toujours que leurs recours seront bien pris en compte par la justice. C'est un projet à 200 millions d'euros. 5 militants sont par ailleurs bientôt convoqués devant le tribunal du Puy-en-Velay. Ils risquent une amende pour s'être attachés aux arbres au mois de novembre dernier.
Il est 8h05. Elle a toujours l'air d'une enfant et fête pourtant 7 décennies de succès.
On souffle les bougies avec elle. Personnage incontournable des rayons littérature jeunesse. Martine a 70 ans. Une exposition est pour l'occasion consacrée à la célèbre fillette imaginée par le duo belge Marlier Delahaye. Et preuve qu'elle traverse comme si de rien n'était, génération après génération. Matteo Maestrachi.
Martine remplit son attestation de déplacement ou encore Martine à la gueule de bois. Vous avez sans doute déjà vu passer en ligne l'une de ses nombreuses couvertures parodiques, plus ou moins drôles et de bon goût. Une preuve supplémentaire en tout cas que tout le monde ou presque connaît Martine, devenue en 70 ans à la fois un phénomène de société et commercial, avec 170 millions d'albums vendus dans le monde par les éditions Casterman. Laurence Boudard, commissaire de l'exposition.
Le fait que Martine soit tournée en dérision à travers des parodies, c'est un peu la rançon du succès. C'est aussi la reconnaissance finalement que ce personnage est complètement entré dans les mémoires collectives, toutes générations confondues, parce que ça fait rire les plus jeunes comme les plus âgés d'entre nous.
Et si Martine a longtemps véhiculé plusieurs stéréotypes, celui d'une jolie petite fille sans défaut et un peu naïve, ou au moment des 30 Glorieuses, un schéma familial selon lequel papa travaille et maman est à la maison, cela fait plusieurs années que les aventures de la fillette s'adaptent à notre époque et des albums anciens sont même régulièrement réécrits pour apparaître plus moderne.
Ça donne envie. Matteo Maestrachi, l'exposition reste en place ces 3 prochaines semaines. C'est à Paris, Galerie Gallimard. Martine Médé, 3 points, on en aurait bien besoin. Tiens, dans l'effectif de la chorale de Rouen, les basketteurs rouennais qui s'inclinent encore, 90-80. C'était hier sur le parquet du Mans. La chorale est toujours 16e, premier relégable, toujours à une victoire de Gravelines Dunkerque, également battu hier par l'Asvel. Et puis les Sumo ont un nouvel adversaire de taille, un tout jeune. Jeune lutteur vient de faire une entrée fracassante dans l'histoire du sport japonais. Takeru Fuji a remporté à 24 ans seulement le tournoi de printemps. C'est l'un des plus importants de la saison au Japon. Un an et demi seulement après ses débuts dans la discipline. C'est tout simplement du jamais vu. Et c'est l'ascension la plus rapide jamais observée pour ce colosse d'1m80 et 143 kilos.